Le lundi 15 avril, ici Karl Marchand. Voici les nouvelles. Bonjour, mesdames et messieurs. Le FBI a ouvert une enquête à la suite de l'effondrement d'un pont à Baltimore percuté par un porte-conteneur à la fin du mois de mars. Selon le Washington Post, l'enquête pénale vise à déterminer si l'équipage avait largué les amarres en sachant que le navire présentait de graves problèmes mécaniques selon deux fonctionnaires américains anonymes. Après avoir informé les autorités d'une perte de puissance à cause de problèmes de propulsion, le navire Dali a heurté le pont Francis K. Scott le 26 mars dernier. Six travailleurs qui s'affairaient à l'entretien de la structure sont morts à la suite de l'impact. Et toujours aux États-Unis, c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de Donald Trump à New York pour falsification de documents avec le choix du jury. Il devient le premier président, ancien président américain, à faire face à la justice pénale. Stéphane Boucher.
L'affaire concerne des paiements destinés à acheter le silence de l'ancienne star du X, Stormy Daniels, avec laquelle Donald Trump aurait eu une liaison en 2006. Des informations que le leader républicain aurait cherché à cacher pour ne pas nuire à sa candidature à l'élection présidentielle de 2016. Richard Châteauvert, correspondant à New York.
Monsieur Trump et son avocat personnel, Michael Cohen, ont créé un stratagème pour faire en sorte que Monsieur Cohen verse 130 000 $ à Stormy Daniels pour acheter son silence.
Les chèques qui ont ensuite servi à rembourser Michael Cohen sont au cœur des accusations de falsification comptable, une infraction jugée criminelle.
Selon l'accusation, ces chèques ainsi que des factures ont été inscrits au livre comptable comme s'il s'agissait de frais juridiques.
L'ex-président américain nie en bloc. Il sera présent à toutes les étapes de son procès. À son arrivée ce matin au tribunal, il a répété être victime de persécutions politiques. Stéphane Boucher, Cogeco Nouvelles.
De retour au Québec, les discussions ont repris après le rejet de l'entente de principe conclue entre la Fédération interprofessionnelle de la santé et le gouvernement. Une rencontre s'est tenue hier soir entre négociateurs syndicaux et patronaux avec le retour d'un conciliateur à la table des pourparlers. Julie Bouchard est présidente de la FIC.
L'échange a été quand même très cordial en disant il y a l'ouverture à redébuter. Tu sais, c'est pas on est fermé chacun de notre côté. On doit faire nos travaux à nous pour justement recueillir toute l'information nécessaire. Et par la suite, on va redébuter nos travaux avec toute l'énergie qu'il faudra mettre.
L'île d'Anticosti est devenue un dépotoir à ciel ouvert selon un rapport de l'Organisation Bleue publié aujourd'hui. Les berges du fleuve Saint-Laurent et plusieurs autres cours d'eau de l'est du pays sont aussi jonchés de mégots de cigarettes, de bouteilles et de morceaux de plastique. Ce rapport est le résultat d'une collecte de données sur les cinq dernières années lors de 91 corvées ayant impliqué 2500 bénévoles. 20 tonnes de déchets ont été récoltées. La biologiste et cofondatrice de l'Organisation Bleue, Anne-Marie Asselin, a expliqué sur nos ondes que les déchets sur l'île d'Anticosti illustrent bien le mode de vie des Canadiens.
Tout émerge des Grands Lacs jusqu'à l'océan Atlantique. On peut imaginer que tous les déchets qu'on retrouve en chemin sont vraiment le fruit de notre mode de consommation à titre de Canadien. C'est pas les marées internationales qui ramènent les déchets chez nous. C'est vraiment le résultat de nos façons de gérer nos déchets.
Avec une hausse de consommation, les déchets de plastique ne feront qu'augmenter, selon l'organisation. Et galvanisé par les sondages, Paul Saint-Pierre-Plamondon a été acclamé hier par 500 militants et observateurs au Conseil national du Parti québécois. Le chef péquiste affirme que le Québec verra bel et bien un troisième référendum, oui, sur la souveraineté.
Soit on garde le statut de minorité en déclin dans le Canada jusqu'à notre disparition, soit on devient enfin majoritaire chez nous avec la garantie d'une pérennité linguistique et culturelle. C'est ça le choix qui nous attend dans les prochaines années.
Et le gouvernement Trudeau veut imposer davantage les Canadiens les plus riches, selon Radio-Canada. Le budget que va déposer Chrystia Freeland demain devrait comprendre des mesures en ce sens. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Bonjour, ici Jean-Claude Gélina. Je vous invite à ne pas manquer en semaine sur CFIX FM 93. Rimouski, les petites vites.
Ronde finale, 200 points, avion de chasse ou Jeep Grand Cherokee. Lequel a 5 écrans numériques?
Les deux ont ça.
Caméra vision nocturne infrarouge?
Encore vrai pour les deux.
Siège à massage livrable?
C'est seulement le Jeep Grand Cherokee.
On a un gagnant!
Obtenez jusqu'à 10 % de rabais sur le PDSF, soit jusqu'à 8 700 $ en rabais sur la plupart des Jeep Grand Cherokee 2024 pendant l'événement Jeep sans limite. Plus de détails sur Jeep.ca.
Ici, c'est CFIX FM 93.
Discutons, échangeons. Tous les sujets sont permis et approfondis.
Voici l'effet Normando. réseau Cogeco. Voici l'effet Normando avec Nathalie Normando.
Bonjour, je vous souhaite un très bon lundi, de même qu'un excellent début de semaine. Nous avons de la grande visite aujourd'hui à l'émission. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir d'échanger avec le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était réuni en fin de semaine avec ses militants. Ils étaient 500 réunis à Drummondville. Beaucoup de choses ont été dites, et en particulier une affirmation faite par le chef du Parti québécois à propos de notre destin national. Le chef du Parti québécois prévoit que le Québec va s'effacer si on dit non à un troisième référendum. Est-ce que vous partager son point de vue? Gros lundi ce matin, hein, n'est-ce pas? Une absolution conditionnelle pour avoir défendu ses deux enfants victimes d'intimidation. Je souhaite revenir sur cette histoire d'intimidation à l'école Pierre de Lestage. Le papa a obtenu une absolution conditionnelle jeudi dernier. Est-ce que vous croyez que cette peine est trop sévère? Remarquez qu'il n'aura pas de casier judiciaire, mais que pensez-vous de cette absolution conditionnelle? Pour ou contre le retour du crayon et de la craie en classe face à la présence grandissante des écrans en classe, des voix s'élèvent pour qu'on revienne à l'utilisation du crayon et de la craie en classe. 500 $ par mois pour nourrir des jumeaux, c'est ce que ça coûte à des parents qui n'ont plus les moyens de payer pour, vous savez, se procurer la fameuse préparation pour nourrissons. Un article paru dans la presse ce matin est venu me chercher. Vraiment, ça me vire à l'envers lorsque je vois ce genre de nouvelles. Imaginez-vous donc que des familles à faible revenu, des immigrants nouvellement arrivés au Québec qui n'ont pas les moyens, qui n'ont plus les moyens de payer pour cette préparation fondamentale, utile, nécessaire pour leur permettre de nourrir leurs enfants. Alors, la question qui se pose, est-ce à l'État, est-ce qu'on doit subvenir aux besoins de ces parents qui en arrachent de plus en plus à nourrir leurs enfants? Texto pour nous joindre, 98-98-5 et le courriel nathalie@98-5fm.ca.
Les Québécoises et Québécois doivent réaliser que notre prochain rendez-vous avec l'histoire, car il aura lieu, est peut-être, en fait fort probablement, notre chance ultime de se donner une pérennité linguistique et culturelle.
Il a accepté notre invitation, il est avec nous. Bonjour, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, comment ça va ce matin?
Ça va très bien, vous?
Très bien, merci. Gros conseil général en fin de semaine. Vous y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, ma foi. Une déclaration qui fait l'objet d'une grande attention médiatique aujourd'hui. Et j'invite nos auditeurs d'ailleurs à réagir. Vous avez fait cette affirmation avec énormément de conviction. Qu'est-ce qui vous permet de croire, M. Saint-Pierre Plamondon, que le Québec va s'effacer si on dit non à un prochain référendum?
Ben, je regarde les derniers mois. Et ma lecture, c'est que l'histoire s'accélère. Elle s'accélère parce que on est passé, il y a quelques années, il y a 15 ans, d'un modèle en immigration au Québec qui était exemplaire, qui était un des meilleurs dans le monde. On accueillait 35 000 personnes par année et le français était stable. On n'avait pas de crise du logement. On est passé de ça à un régime parallèle d'immigration imposé par le fédéral. Il y a eu Roxham, il y a les aéroports, mais il y a surtout l'immigration temporaire contrôlée par le fédéral. Il y a également maintenant l'empiètement, mais complètement assumé, du fédéral dans tous les champs de compétences du Québec. Ça veut dire que le fédéral assume qu'il ne respecte pas sa constitution et qu'il veut décider à la place du Québec. Et il y a eu le God Save the King. Et les déclarations que j'ai faites, qui sont les plus musclées, là, qui ont été rapportées dans les médias, c'est suite à cette mention dans mon discours d'un Acadien élu qui dit « J'aimerais qu'on fasse comme le Québec puis qu'on abolisse le serment au roi d'Angleterre parce que c'est la déportation des Acadiens. » Et les élus qui ont voté contre ont chanté le « God Save the King ». Donc, cette adhésion au colonialisme britannique qui, durant toute son histoire, a discriminé les francophones, a été violent envers les autochtones, on l'assume. Et tout ça me fait dire que l'histoire va plus vite qu'on aurait pu l'imaginer. Et que va falloir s'inscrire comme Québécois dans l'histoire. À mon avis, soit on demeure dans le Canada et il va nous arriver la même chose qu'aux francophones dans toutes les autres provinces canadiennes, c'est-à-dire le déclin et la marginalisation, ou on sort du Canada, on devient un nouveau pays, et dans quel cas, on va avoir une pérennité linguistique, culturelle, on va reprendre aussi les commandes de nos finances, parce qu'en ce moment, on envoie 82 milliards par année en impôts à Ottawa en échange de pas grand-chose en termes de services.
Mais ça donne pas beaucoup d'options aux citoyens et citoyennes du Québec, Monsieur Saint-Pierre Plamondon. C'est comme si c'est le croix ou meurt. Et c'est comme si, dans le fond, vous preniez pour acquis que le fédéralisme ne peut pas s'améliorer. Là, il y a Justin Trudeau qui est à Ottawa. Un jour, il y aura peut-être un nouveau premier ministre à Ottawa. Peut-être que la relation sera différente avec les provinces. Pourquoi cette espèce de discours alarmiste? À ma connaissance, il n'y a pas un chef du Parti québécois dans l'histoire de votre formation politique qui est allé aussi loin que vous.
Ça se peut. Oui, c'est possible. Puis je pense que vous le dites exactement comme c'est. Je prends pour acquis qu'à ce stade-ci, il n'y a aucune chance que le fédéral change ou s'améliore. Je constate donc la fin du discours de Brian Mulroney, du retour du Québec dans l'honneur et l'allégresse, l'enthousiasme. Ça n'arrivera pas. Je prends pour acquis que maintenant, reconquérir le Canada, qui était le discours d'André Pratt, l'idée que c'est les francophones qui exercent le pouvoir à Ottawa, ça non plus, ça n'arrivera pas. Et c'est très simple, c'est pour des raisons démographiques. Le poids du Québec dans le Canada diminue constamment. Quand le Canada a été fondé, on avait 36 % des élus à Ottawa. Et on se dirige là autour de 2047 vers la moitié, 18 %. En ce moment, on est à 22 %. Et ce poids-là, il n'est pas suffisant pour influencer le reste du Canada. Ce qui fait que Pierre Poilievre ou Justin Trudeau, s'ils veulent devenir premier ministre du Canada au terme des prochaines élections fédérales, ils n'ont pas besoin du Québec. Ils n'ont pas besoin de gagner le Québec. Et ça apparaît ensuite dans toutes les décisions. Et je ne souhaite pas aux Québécois d'être minoritaire, d'être le cinquième d'un gouvernement qui décide pour nous autres. Et je ne souhaite pas aux Québécois de continuer dans le dédoublement du fédéral qui fait ce qu'on fait déjà au Québec, de sorte qu'on gaspille l'argent en des paliers de gouvernement qui ne se comprennent pas. Puis pendant ce temps-là, on sous-finance la santé parce que l'argent a déjà été dépensé dans une fonction publique fédérale qui coûte désormais 60 milliards par année. Posez-vous la question, là, qu'est-ce que vous avez obtenu de service de la part du fédéral? Il y en a qui vont répondre les passeports. Ça, c'est quand vous les obtenez à temps. Et ma conviction, c'est que je pense qu'au Québec, on ferait de meilleures décisions avec les 82 milliards qu'on envoie à Ottawa. Donc, c'est vraiment ça ma conclusion. Il y a un point de non-retour, il y a un point de bascule qui nous amène à sortir de là ou à accepter le déclin et tout le mépris puis l'amertume qui vient avec.
Les sondages vous donnent grand gagnant lors de la prochaine élection. Vous pourriez devenir le prochain premier ministre du Québec. Vous avez dit aux Québécois en fin de semaine, il y aura un troisième référendum d'ici la fin de la présente décennie, donc d'ici 2030. Si vous formez le gouvernement en 2026, là, on peut prévoir un référendum quand? Un an, deux ans après votre arrivée au pouvoir? Est-ce que vous pouvez être plus précis de ce côté-là?
À ce jour, non. J'ai toujours dit que ce serait dans ce mandat-là. Mais ces questions de mécanique-là, non, on n'a pas encore défini. Donc, je ne suis pas en mesure de répondre. Puis, c'est important de répondre seulement lorsque le travail est fait. Puis, de répondre aussi lorsqu'on comprend toutes les circonstances. On est très, très loin de cette échéance-là, bien qu'elle arrive vite, parce que je suis convaincu que ça se fera d'ici 2030. Donc, ça aura lieu dans le mandat, mais on pourra préciser le moment précis, là, ultérieurement.
Qu'est-ce que vous voulez dire que le Québec risque de s'effacer? Il y a le Parti libéral du Québec qui vous a accusé d'être trop radical. Il y a des auditeurs ce matin qui affirment que vous êtes trop alarmiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Québec pourrait s'effacer concrètement là, pour les auditeurs, auditrices qui sont à l'écoute?
Ben, concrètement, le fédéral ne respecte pas la Constitution, donc normalement, le Québec décide pour lui-même au moins sur la majeure partie de ce qui est important dans nos vies. La Constitution, en principe, protège ça. Ce que le fédéral fait de plus en plus, c'est il prend la moitié de nos impôts, un peu moins de la moitié de nos impôts dans nos poches, et ensuite, il dit au Québec et aux autres provinces d'ailleurs, là, ça pose problème ailleurs dans le Canada, il dit, si vous voulez le reste de l'argent que vous avez de besoin en santé, en éducation, pour bâtir du logement, vous allez écouter ce que nous, on a décidé pour vous. Donc, on se dirige vers un État de plus en plus unitaire, centralisateur, et ce faisant, oui, on efface le Québec parce qu'on efface sa démocratie. Et sur le plan de la langue, de la laïcité, sur le plan de la culture, parce qu'on est mal représenté vis-à-vis les Netflix puis les géants de ce monde qui négocient avec Ottawa, sur le plan de l'immigration, parce que on déstabilise une planification québécoise de l'immigration qui fonctionnait. Tout ça me fait dire que oui, on tente